Bonjour Damien Abad.
Bonjour Frédéric Rivière.
Première interview donc d'Emmanuel Macron hier depuis son élection à la présidence de la République. Est-ce que cet entretien télévisé vous a semblé utile ?
Je crois qu'il était nécessaire pour les Français parce que 5 mois d'attente c'est long. Malheureusement le résultat n'a pas été à la hauteur des enjeux de cette attente. Pourquoi ? Parce qu'on a vu un président de la République flou, toujours arrogant et confus sur un certain nombre de sujets centraux. Je pense notamment à la question de la réforme de l'assurance chômage. Et donc aujourd'hui, Emmanuel Macron a surtout parlé à ses propres électeurs, mais je crois que le lien avec une catégorie de Français est clairement coupé, avec la France des territoires, notamment la France des classes moyennes et des classes populaires.
L'entretien a commencé par ce que certains considèrent comme des écarts de langage du président de la République, en particulier le récent emploi du mot « bordel » en parlant de ceux qui manifestent parfois un peu bruyamment. Il assume et défend l'emploi de ce terme. Il a raison sur ce point, ou est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est une erreur ?
Non, je crois que vous savez, reconnaître ses erreurs, c'est aussi parfois de la grandeur. Et que donc, quand on est président de la République, eh bien, on fait attention aux mots que l'on emploie. Alors, bien sûr que parfois, on peut utiliser un vocabulaire qui peut être plus ou moins familier.
Ça, on le sait, y compris dans votre famille
voilà,
politique.
Voilà, et vous savez, et je crois qu'il faut qu'on l'assume tous ensemble. Le problème, ce qui m'inquiète, c'est la répétition, et puis c'est surtout la tonalité qu'il y a derrière. C'est l'impression d'avoir une France avec d'un côté ceux qui réussissent, et donc ceux qui ont finalement un carrière positif aux yeux d'Emmanuel Macron, et ceux qui échouent. Moi, ce qui m'avait choqué davantage que le mot bordel, c'est quand il avait dit que dans une gare, on croit ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. C'est pas parce qu'on est en situation d'échec, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur la scolarité ou ailleurs, et bien que l'on n'est rien. Je pense que quand on est président de la République, on doit parler à tous les Français.
Cette notion de premier de cordée qu'il a employée pour parler de ceux qui réussissent, pour parler de ceux qui ont fait fortune, par exemple, c'est une idée à laquelle vous souscrivez ?
Là où je souscris, c'est que c'est pas en appauvrissant les riches qu'on enrichit les pauvres. Mais je crois que plus qu'une société de cordée, ce que nous a démontré Emmanuel Macron hier, c'est surtout la société de la corde au cou. Parce qu'avec l'augmentation de la CSG, la baisse des APL, la suppression du prêt à taux zéro, l'augmentation de la fiscalité sur le diesel, tout ceci montre que malheureusement, il y aura encore un choc fiscal, après le choc fiscal de François Hollande, un choc fiscal macronien, dès ce budget 2018.
Alors, il n'a pas voulu prendre d'engagement sur la réduction du chômage. On a bien senti que les journalistes ont voulu l'emmener sur ce terrain. Je ne ferai pas l'erreur, a-t-il dit, de mon prédécesseur. Il a précisé, on ne juge pas un président de la République sur un seul indicateur. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, je partage cela. Je note simplement qu'il a été mis de l'économie lorsque la courbe du chômage ne s'est pas inversée. Je note aussi qu'il a dit que dans 2 ans, on jugera des effets de cette politique économique. Moi, vous savez, je crois que la politique, c'est aussi du temps long. Ce que je regrette simplement, c'est que la transformation économique et sociale qu'il a promis aux Français, sur lequel Emmanuel Macron a été élu, eh bien, on voit bien hier qu'il y a eu des reculades, qu'il y a eu des hésitations et qu'il y a eu une ambition qui paraît finalement moindre. Le candidat Macron était plus ambitieux que le président de la République.
De quel point parlez-vous ? De quelle reculade ?
Je pense à la réforme de l'assurance chômage où clairement Emmanuel Macron a compris que c'était pas finançable, que c'était entre 10 et 14 milliards d'euros et que tout ceci est impossible dans un régime déjà de l'assurance chômage qui est déficitaire. Donc je crois que...
Vous parlez de l'ouverture au chômage, aux démissionnaires ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc on voit bien hier qu'il a voulu encadrer cette ouverture en disant finalement que ça se concernerait que ceux qui auront un projet, mais on n'a pas très bien vu la délimitation. Ce qu'on a noté simplement, c'est qu'Emmanuel Macron a compris finalement l'impact financier extrêmement fort qu'aura cette réforme et qui sera impossible à assumer pour les finances publiques actuelles de la France.
Mais il a affirmé que ça n'aurait pas de surcoût et que le système actuel, lui, avait déjà un coût très élevé.
Le système actuel a un coût très élevé, mais la réforme du financement, notamment pour les démissionnaires, aura un coût considérable pour les finances publiques. Et je pense qu'il faut effectivement qu'il revoie la copie sur ce sujet-là, parce que sinon, ça sera une fiscalité encore plus forte ou des droits moins importants pour ceux qui sont actuellement au chômage.
L'assurance chômage est un des éléments de la grande réforme qui est en cours de préparation et qui est en discussion avec les partenaires sociaux. Il y a aussi la formation et l'apprentissage. Emmanuel Macron a beaucoup développé hier sur la formation, notamment pour les chômeurs. 15 milliards d'euros pour la formation pendant le quinquennat, a-t-il dit. C'est un objectif qui vous paraît ambitieux, que vous saluez ?
Je crois qu'il faut qu'on réforme en profondeur la formation non professionnelle de notre pays. Le groupe Les Républicains a fait des propositions en ce sens. Je pense aussi qu'il faut valoriser l'apprentissage. Simplement, Emmanuel Macron a beaucoup insisté sur la culture de l'apprentissage. C'est vrai qu'il y a une barrière culturelle, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi s'attaquer aux lourdeurs administratives, il faut aussi s'attaquer au coût de l'apprenti, et donc faire des propositions très concrètes sur ce sujet, comme sur la réforme de la formation professionnelle. Nous verrons bien, nous ferons des propositions à l'Assemblée nationale qui viseront justement à réformer en profondeur ce système dont on sait qu'il est coûteux et qui n'a pas toujours porté les résultats escomptés.
La CSG, en ce qui concerne les retraités, le président de la République a affirmé que la baisse de la taxe d'habitation compenserait la hausse de 1,7% de la CSG. Faut-il y croire ?
Non, c'est guignolesque. Et honnêtement, sur ce point-là, il y a un désaccord profond. Parce que la hausse de la CSG va toucher de plein fouet les retraités. Mmh. Et parce que ceux qui gagneront 1200 ou 1400 euros par mois n'auront pas droit à des compensations. Parce que
François Fillon voulait augmenter la TVA, lui.
Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que l'augmentation de la TVA, c'est créer une TVA sociale pour financer la protection sociale autrement que par le travail. L'augmentation de la CSG touchera de plein fouet les retraités qui vont déjà perdre beaucoup de pouvoir d'achat et qui seront les seuls à ne pas avoir de compensation, contrairement aux autres. Je trouve que c'est une injustice fiscale et sociale criante. Et je le dis ici, je pense que les retraités ne sont pas les nantis de la République et qui donc il faut aussi savoir protéger leur pouvoir d'achat.
Emmanuel Macron a eu cette phrase hier en disant « ça surprendra peut-être, ça n'est pas dans les habitudes, mais surtout, je fais ce que j'ai dit ». Est-ce qu'on peut le prendre en défaut là-dessus ? Est-ce qu'effectivement, il ne déroule pas le programme qu'il avait annoncé pendant sa campagne présidentielle ?
On a vu hier que clairement sur la réforme de l'assurance chômage, il y avait une reculade par rapport à ce qui a été dit en tant que tel. On a vu que parfois il y avait le flou sur la question de la sélection à l'université, on ne sait pas trop où il veut aller. Sur la question de la procréation médicale assistée, on ne sait pas trop non plus finalement où il veut aller. Le problème, c'est que dans la campagne présidentielle, il n'a rien dit. Donc c'est un peu plus facile de dire ce que l'on fait quand on n'a rien dit pendant la campagne présidentielle.
À propos du terrorisme, qui a d'ailleurs été relativement peu abordé dans cette interview, l'État français est fort, a dit Emmanuel Macron, et la loi sécurité qui va transposer un certain nombre des dispositifs de l'état d'urgence nous protégera. Fallait-il dire autre chose ? Faut-il aller plus loin ?
D'abord, je regrette le peu de place qui a été accordée à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, ce qui est quand même une préoccupation.
Ça ne lui est pas forcément imputable à lui-même.
Qui est une préoccupation quotidienne aux yeux des Français. Sur cette loi sur le terrorisme, nous avons, au groupe républicain, massivement voté contre pour une raison très simple, c'est que nous pensons qu'il n'était pas aujourd'hui opportun de sortir l'état d'urgence. Parce que le niveau de la menace, quand on est entré dans l'état d'urgence, n'a pas diminué par rapport au moment où on en est sorti. Et donc la réalité aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que sur les questions du régalien, il y a finalement une propension au président de la République à laisser un petit peu faire les choses. Je crois qu'il y a une proposition qui a été faite hier, c'est largement insuffisant sur le plan de la sécurité, sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Il faudra effectivement, clairement, mettre les bouchées doubles, parce que pour nous, le compte n'y est pas.
Un mot des Républicains. On connaît désormais chez vous tous les candidats à la présidence du parti. Et il y a un grand favori, premier de cordée, je ne sais pas, mais un grand favori, c'est Laurent Wauquiez. Est-ce qu'il aura, s'il est élu, ce qui paraît aujourd'hui vraisemblable, la capacité à rassembler, parce que c'est aussi un personnage qui divise ?
Je pense, c'est ce qu'il a fait dans sa ville, c'est ce qu'il fait dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le seul qui a aujourd'hui l'autorité, la détermination et l'envie pour relever la tête de notre famille politique. Aujourd'hui, on a un mouvement sans tête. On a besoin d'un leader charismatique, on a besoin de quelqu'un qui fixe une ligne claire. Et il a raison de dire qu'il faut une droite qui assume ses convictions, qui ne se renie pas, et qui soit une droite qui clairement, reparle à la France des territoires, des classes moyennes, des classes populaires. Et je pense que Laurent Wauquiez est en capacité de le faire et de fédérer et de rassembler l'ensemble des sensibilités de notre famille politique.
Les autres candidats sont là pour le témoignage ?
Non, mais vous savez, toute candidature est respectable. Simplement, ce que je dis, c'est qu'on est candidat pas simplement pour faire une tournée médiatique, on est candidat pour porter un message politique. Moi, je souhaite qu'il y ait un débat qui soit serein et digne et que tout le monde se retrouve le soir du 10 ou du 17 décembre.
Merci Damien Abad. Bonne
Merci
journée.
Beaucoup.